Bonsoir. La société civile du Katanga demande au secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives de suspendre le processus de validation du rapport ITIE 2011 pour la RDC dans la filière cuivre et cobalt. Raison évoquée, manque de transparence. Pour sa part, le coordonnateur national de l'ITIE en RDC rejette ces affirmations, estimant que la société civile a été associée à l'adoption de ces rapports. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons avec le professeur Jérémy Mac Ndoumba. Il est coordonnateur national de l'ITIE en RDC. Bonsoir, professeur Jérémy Mac Ndoumba.
Bonsoir, monsieur.
Jean-Pierre Mouteba, coordonnateur de la société civile du Katanga. Bonsoir, monsieur Jean-Pierre Mouteba.
Bonsoir, monsieur.
Et Michel Somouin, économiste. Bonsoir, Michel Somouin.
Bonsoir, monsieur.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le cadre de concertation de la société civile du Katanga demande au secrétariat international de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE en sigle de suspendre le processus de validation du rapport ITIE 2011 pour la RDC dans la filière cuivre et cobalt qui débute le 17 avril prochain. Raison évoquée, les audits des entreprises minières ne se font pas dans le respect des normes internationales. La filière cuivre et cobalt compte pour plus de 80 entreprises minières dont la plupart sont au Katanga. La société civile estime que dans cette filière, il n'y a pas de transparence. Chaque année, la production des minerais est en hausse, mais les recettes ne suivent pas. On écoute Jean-Pierre Mouteba, coordonnateur de la société civile du Katanga, joint par Paulin Munanga.
Ce que nous reprochons à cette filière, c'est d'abord les audits des entreprises ne se font pas en respect des normes internationales. Le rapport BDO a confirmé qu'il y avait des entreprises minières, notamment du Katanga, dont les pièces comptables n'étaient ni à Lubumbashi, ni de leur site d'exploitation, mais dans leur pays d'origine. Ce qui démontre à suffisance que les audits qui sont faits régulièrement par leurs auditeurs internationaux des complaisances ne se font pas selon le respect des normes internationales en matière d'audit. Deuxième chose, la GECAMIN avait demandé il y a 2 ans les audits de tous les partenaires pour pouvoir évaluer la hauteur des investissements. Nous attendons que le gouvernement et la GECAMIN mettre à notre disposition 1. Le rapport BDO final, 2. Les rapports des audits de tous les partenariats GECAMIN tels que demandés par la GECAMIN il y a un temps. C'est pourquoi nous demandons la suspension de la RDC par rapport à la validation, que la validation ne se ferait que quand la feuille de route que nous aurons à négocier avec le gouvernement sur ce point-là soit réalisée dans le temps avant que nous puissions ensemble présenter cette filière à la validation.
Contacter le coordonnateur national de l'ITIE en RDC dénonce cet agissement de la société civile du Katanga. Pour le professeur Jérémy Mac Ndoumba, le rapport ITIE 2011 a été adopté à l'unanimité par le comité exécutif de l'ITIE auquel appartient la société civile. Et d'ajouter qu'il n'appartient pas à certains individus de refuser les rapports sur base des humeurs. Jean-Pierre Mouteba, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile du Katanga. Vous reprochez à ces entreprises le fait que les audits qui y sont effectués ne se font pas conformément aux normes internationales. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Je veux dire que nous devons éviter des émotions. Je crois que le secteur minier, c'est un secteur important pour le pays. Et ici, je ne parle pas du diamant et des autres produits. Je ne parle que de la filière cuivre-cobalt que je connais bien. En fait, ce secteur-là a fait l'objet des audits. Des audits indépendants qui ont été demandés par les gouvernements, parce que les gens, je crois qu'ils ne lisent pas. Le rapport BDO, ce n'est pas la société civile qui l'a demandé. Ce n'est pas les humeurs de Jean-Pierre Mouteba qui a demandé le rapport BDO. Le premier ministre actuel, Matata Mponyo, qui était en son temps ministre des Finances, a demandé que, par appel d'offres, qu'on audite 2 grandes entreprises. En fait, il avait été demandé qu'ils auditent toutes les entreprises minières. C'était pour pouvoir saisir le niveau d'investissement. Parce que si vous n'avez pas connaissance du niveau d'investissement d'une entreprise, vous ne savez vraiment pas attendre de l'entreprise des recettes. Parce que l'assiette signifie que vous devez connaître qu'est-ce qui a été investi de manière à ce que vous puissiez déterminer qu'est-ce que vous gagnez par rapport à la production réalisée.
Voilà, les audits ont été effectués, mais vous affirmez que ces audits n'ont pas été effectués conformément aux normes.
C'est un rapport que détient le gouvernement. Et dans ce rapport, il est dit clairement que l'une des entreprises concernées par cet audit-là, les pièces n'étaient ni à Lubumbashi, ni sur les sièges d'exploitation. Donc les pièces étaient dans le pays d'origine. Or, en matière d'audit, surtout que ce sont des audits des immobilisés, vous ne savez pas comparer le physique avec la pièce. En ce moment-là, vous ne savez pas effectivement qu'est-ce qui a été investi. Or, nous constatons malheureusement qu'en ce moment-là, l'audit ne se fait pas selon les normes. Les audits réguliers qui sont faits dans ces entreprises-là ne se font pas de manière à respecter les normes internationales. L'une des deux entreprises concernées avait tout simplement demandé un report de l'audit. Parce qu'elle n'était pas prête et tout ça, elle a écrit dans ce sens au gouvernement pour demander un rapport. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le rapport BDO qui existe, qui a été demandé par le gouvernement dans les deux entreprises auditées. Alors nous pensons qu'il y a un problème. Et le problème c'est que, d'ailleurs le chef de l'État que nous soutenons l'avait dit dans le discours à Lubumbashi, que le niveau d'investissement, quand un pays ne sait pas connaître le niveau d'investissement réel, Donc vous ne savez pas l'assiette. Et donc l'entreprise peut demander 3, 4, 5, 6 ans. Elle est en train de revenir sur son investissement, 4, 5, 6 fois l'investissement, et vous ne savez pas. Et nous demandons aujourd'hui, entre autres, que le gouvernement puisse, encore une fois, demander des audits de tous les partenariats, de toutes les entreprises minières du Katanga. Parce que c'est là où nous sommes dans la filière, où il n'y a pas de transparence. C'est ça la question. Ce n'est pas un problème d'individu, parce que les gens dans votre pays aiment beaucoup individualiser les débats. C'est tel qui a dit, ce n'est pas tel qui a dit. Ce n'est pas des humeurs, c'est un audit demandé par le gouvernement. Si le gouvernement dit qu'il n'avait pas demandé l'audit, on peut vous le produire pour que vous puissiez voir et lire comme nous. À moins
voilà,
que...
Vous affirmez aussi que les rapports des audits de ces entreprises se trouvent dans les pays d'origine de ces entreprises. Et sur base de ces faits, vous concluez que leurs auditeurs sont complaisants. N'est-ce pas une conclusion hâtive?
Nous disons. Parce que je crois qu'il y a ce qu'on appelle les normes internationales en matière d'audit. Si vous avez une petite boutique, même une petite maison, moi j'ai une ONG, hein, quand on m'audite chaque année, je crois qu'on me demande des pièces comptables. Toutes dépenses avec une pièce. Soit c'est une liste de participants, soit c'est telle facture, soit c'est ceci. C'est ça qui prouve que vous avez effectivement effectué la dépense à telle hauteur. C'est cela. Mais quand des auditeurs, il y a bien des noms, hein, KPMG, nous savons ce qui s'est passé à Paris par rapport aux audits que KPMG fait sur l'aéroport de Paris. Vous avez Ernst & Young et tous ces grands noms que vous avez, ce sont ces noms-là qui auditent nos entreprises de manière régulière. Et ce n'est pas ce qui s'est fait en Zambie, parce que ce sont les mêmes auditeurs qui sont là. Donc chez nous, nous avons un contexte particulier. Et ce contexte montre que aujourd'hui, avec notamment cette contre-vérification des BDO, montre que les auditeurs qui sont réguliers dans ces entreprises-là, les auditeurs externes réguliers, non, ces auditeurs externes, ils font, les états financiers sont là, mais...
Quand les pièces
ne sont pas là, je crois que ce n'est pas des émotions. Parce que je crois que les gens, ils travaillent plus sur le cœur, alors que nous ne sommes pas à ce niveau. Nous sommes au niveau de la réflexion, la science, avec des indicateurs vérifiables.
Voilà. Pour présenter à la validation les filières cobalt et cuivre au sujet du rapport 2011, vous demandez à la GECAMINE de mettre d'abord à votre disposition les rapports, vous, donc de la société civile plutôt, les rapports des audits qu'elle avait exigés de ses partenaires afin d'évaluer la hauteur des investissements. Y a-t-il des soupçons d'opacité ou des malversations au sujet de ces deux filières?
Je crois que nous l'avons dit. La GECAMINE a compris que pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, ses partenaires, il fallait qu'elle puisse avoir le niveau d'investissement. Quelqu'un vient, il déclare avoir mis 3 milliards, l'autre déclare avoir mis 4 milliards. Mais quand quelqu'un vous dit j'ai mis 3 milliards, 4 milliards, il faut attendre pour rentrer dans les n'est-ce pas, le bénéfice, il faut que lui d'abord rentre dans l'investissement. Donc s'il a investi 1 milliard, il dit qu'il en a mis 4, c'est-à-dire vous attendez... c'est ça, la période de remboursement, avant que vous ne puissiez entrer dans... La GECAMINE a compris, elle a demandé, elle a fait un appel d'offres international pour demander à un cabinet de venir. Je crois que c'est des choses qui sont publiques. Ce n'est pas nous qui disons. La GECAMINE a fait... Vous pouvez chercher, je vous dis, un appel d'offres international pour que les gens un cabinet intervienne auditer les partenariats GECAMINE. Vous pouvez demander, au lieu de me poser la question à ce sujet, poser la question à la GECAMINE. Demandez-leur où sont ces rapports. C'est ce que nous demandons. Nous avons une feuille de route, on va nous publier tout ce rapport-là, que nous puissions connaître le niveau d'investissement, parce qu'on suppose qu'ils ont déjà, et puis nous allons discuter.
Merci, maintenant. M. Moukeba. Vous avez attendu que ces rapports soient adoptés pour que vous puissiez dénoncer ?
Quel rapport ?
Les rapports au ITIE 2011.
Mais il n'est pas adopté ?
Non, selon le professeur Jérémy Makdumba, les rapports avaient été adoptés à l'unanimité. Et parmi les sociétés qui avaient adopté, il y avait la société civile qui était présente.
Je crois que le professeur Makdumba connaît bien le processus ITIE. Le processus ITIE, la société civile peut être dans et la société civile peut travailler hors du comité. Je crois que cela ne nous empêche pas si M. X a adopté. D'abord, M. X qui ne connaît pas les mines. Je crois que de sa vie, de sa naissance, il n'a jamais mis ses pieds dans une mine quelconque.
À l'unanimité.
J'ai dit ceci. J'ai dit si M. X ne connaît pas qu'il y a BDO ou qu'il y a des audits et tout. Merci. Et si Monsieur X, vous l'amenez à Kinshasa, vous lui dites adopter, il va adopter. Et si vous adoptez ce que vous ne connaissez pas, la société civile a quand même des experts.
Merci.
La société civile peut donner ses avis. Et je crois qu'ici, on ne va pas dire non, nous avons adopté. Toute la société civile n'était pas dans cette salle pour adopter.
Merci.
Et dit, je crois que...
Merci, on vous a compris, Monsieur Jean-Pierre Moukeba. Professeur Jérémy Makdumba, vous êtes coordonnateur national de l'ITIE en RDC. Vous semblez vous étonner de cette déclaration de la société civile du Katanga et vous dites qu'il n'appartient pas à certains individus de refuser les rapports au ITIE 2011 sur base des humeurs. Et cela veut dire que les raisons que cette société civile avance ne sont pas valables.
Merci Guy pour cette question importante et surtout pour m'avoir invité à cette émission Dialogue entre Congolais. Je voudrais de prime abord constater que depuis que M. Moukeba intervient dans le sujet que vous lui avez auquel vous l'avez intéressé, en ce qui concerne les audits des entreprises par BDO, je constate tout simplement qu'il y a un amalgame d'audits, de certifications, d'évaluations. Le gouvernement n'a pas mandat de faire auditer des entreprises jusqu'à ce qu'on soit entré maintenant à l'OADA. Il n'y a aucune loi qui dit ça. Le gouvernement congolais n'a pas demandé qu'on aille auditer TFM. Ce n'est pas comme cela que les choses doivent se dire. Les choses se passent de sorte que le système fiscal congolais est déclaratif. Donc, lorsque TFM a déclaré les immobilisations, en fait, tout ce qu'il possédait. Le gouvernement congolais est en droit de vérifier, de contre-vérifier si ce qu'il a déclaré comme investissement est vrai. Cela ne s'appelle pas audit. Ça ne s'appelle pas du tout audit. Donc, en ce qui concerne BDO, je donne mon doigt à couper et que M. Moukeba, comme il a dit, que vous apporte les documents dans lesquels on a dit « allez auditer ». Non. On a demandé à BDO d'aller évaluer ce que TFM avait déclaré comme étant ses investissements en infrastructure. C'était cela. Mais ce n'est pas sur ce domaine que je voudrais m'étendre maintenant.
Pour vous, ça ne s'appelle pas audit.
Non, ça ne s'appelle pas audit des comptes. Parce qu'il a entendu audit, mais les documents qu'on devait, sont à l'étranger et tout ça. Non. BDO est allé vérifier ce que vous aviez déclaré, hein, était de, vous aviez dit par exemple que vous possédez 10 bennes, vous possédez cela.
Et les conclusions du travail effectué par BDO,
non, je ne vais pas entrer dans ces documents. Je voulais parler de l'amalgame. Moi, je suis venu ici en tant que coordonnateur de l'ITIE. Parce que, en fait, M. Moukeba a associé cette histoire avec le processus de l'ITIE. Ça, il n'y a pas de parité.
Bon, en fait, donc, il affirme que les normes internationales n'ont pas été respectées parce que les pièces.
Monsieur Moukeba ne peut pas vous dire ce que ça signifie, norme internationale. Moi qui vous parle en tant que coordonnateur national de l'ITIE, je siège au conseil d'administration de l'ITE international.
Mais,
laissez-moi vous dire
Doumba,
que
Doumba,
je vais vous dire que nous avons toujours discuté sur cette
activité
norme internationale.
Fou, au Congo ou à l'étranger?
Je vous dis, qu'est-ce que ça signifie norme internationale? Que si vous, Guy, vous connaissez, répondez à la question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une exigence de l'ITE qui dit le gouvernement, les gouvernements de tous les pays mettant en œuvre le processus doivent veiller à ce que les déclarations à l'ITE soient fondées sur des comptes basées sur des comptes audités selon les normes internationales. Et nous avons toujours remis cela en cause. Qu'est-ce que vous dites normes internationales? Lorsque un auditeur, un conseil d'administration d'une entreprise estime que les comptes qui ont été audités et les rapports qui ont été présentés est positif. Donc, nous ne voulons pas entrer sur ça. Mais je voudrais revenir à votre question principale. Est-ce qu'ils disent...
Les conclusions qui découlent du travail effectué par BDO.
Non. Ça, je voudrais vous dire. Est-ce que vous m'avez posé une question dans ce sens, Guy? Non. Vous m'avez posé la question dans le sens que nous disons que c'est que la société civile, notamment M. Mouteba et les autres, sur le rapport ITE, ce n'est pas correct. Donc, nous continuons à soutenir qu'il y a un amalgame dans la constatation. L'ITE international est une structure d'excellence qui a des normes. C'est une norme qui impose à toutes les parties prenantes de se tenir à cette norme pour parler de conclusions. Aujourd'hui, la conclusion finale de M. Mouteba, c'est quoi? Nous demandons qu'on suspende, il demande au secrétariat international de suspendre la validation de la République démocratique. Ça ne se passe pas comme ça, monsieur. Je voudrais vous dire que nous sommes...
Parce qu'il estime qu'il n'y a pas de transparence,
non, ça ne se fait pas comme cela. C'est depuis le 17 avril 2013 que la République démocratique du Congo a été suspendue et que on nous a posé comme condition de publier le rapport au 31 décembre et que ce rapport réponde aux mesures correctives. Alors, nous avons publié le rapport. Il ne peut pas dire aujourd'hui ici que le rapport n'a pas été adopté. Le rapport a été adopté, publié, et on y débat. Si Mouteba ne peut pas débattre de ce rapport, si la société civile du Katanga ne peut pas débattre mais la société civile du Katanga, c'est elle qui a émis des réserves sur beaucoup d'éléments qui ont été corrigés en fonction de cela. Alors, la société civile du Katanga, c'est qui? Ce n'est pas M. Mouteba. La société civile du Katanga, ce sont les organisations non gouvernementales du Katanga avec celles de Mouteba comprises. C'est cela la vérité. Donc, à ce jour, nous ne sommes pas dans le fait qu'un individu quelconque, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa représentativité, ne peut pas demander au secrétariat international de suspendre. Le secrétariat international a déjà reçu l'ordre du conseil d'administration dont je suis membre de venir en République démocratique du Congo, d'évaluer le processus de mise en œuvre et surtout la publication du rapport en correction des mesures correctives qui dépendent des 6 exigences qui n'avaient pas été satisfaites. Donc voilà, il ne faut pas faire l'amalgame dans les déclarations parce qu'on voudrait paraître, on voudrait expliquer aux gens, voilà, que ça ne sera pas considéré cette demande. La demande, est-ce que je peux terminer, Guy, pour te dire que nous devrions la semaine passée, présenter des améliorations apportées à notre rapport sur base des critiques que la société civile a faites. Et cela a été fait, et hier déjà, le comité exécutif de l'ITE de la République démocratique du Congo a adopté le rapport amélioré, sans tenir compte, bien sûr, de tout ce qui peut se dire, et c'est sur cette base que le secrétariat international se base.
Apparemment, M. Mouteba n'est pas au courant de tout ça.
M. Mouteba était un individu appartenant à une organisation de la société civile, comme tous les autres. L'ITE est multipartite.
Merci.
Il y a la société civile, les entreprises et le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous voulez seulement dire que Mouteba dit?
Merci. Eh bien, je retiens que vous n'avez pas voulu répondre à ma question. Hein,
non, je n'ai pas reçu votre question.
Je vous ai demandé où se trouvent les pièces ont découlé du travail effectué par BDO.
Vous n'avez
pas voulu répondre à cette question-là.
Ce n'est pas notre rôle d'aller vérifier dans une entreprise si les documents sont là ou pas. Merci. Nous avons des principes sur lesquels nous travaillons.
Michel Somoué, je rappelle que vous êtes économiste. Il y a opacité. Le procès en Douba dit qu'il n'y a pas opacité, c'est plutôt un amalgame. Comment vous analysez cette situation?
Sincèrement, je suis embarrassé dans ce débat entre la société civile et le coordonnateur de l'ITI Congo. Embarrassé parce que, sans me prévaloir de ma qualité de membre de société civile aussi au Congo, je ne vois pas en quoi, sincèrement, on peut reprocher la société civile, notamment M. Mouteba, d'exiger justement la transparence qui est même la raison d'être, le fondement, l'appellation, la vocation de l'ITI. Parce que si je comprends bien le problème de M. Mouteba, c'est que il y a un problème. Dès lors que des audits, passons outre l'amalgame dont parle le professeur Jérémy, M. Mouteba dit, sans nous attarder sur le concept, dès lors qu'il y a eu des audits et que ces audits ne sont pas appuyés par des pièces justificatives, donc il y a opacité, il n'y a pas transparence. Je crois que c'est la chose la plus simple à comprendre. Que le professeur Doumba parle de rapport BDO, que le gouvernement n'a pas qualité d'instruire des audits dans les entreprises, etc., mais qui disent en même temps que le gouvernement a quand même le pouvoir, le droit de la contre-vérification par rapport aux déclarations qui sont faites dans le cadre du système fiscal par des contribuables qui sont entreprises minières. Mais que le gouvernement attende de ces entreprises l'annexion des pièces pour justifier leurs déclarations, quoi de plus normal? C'est ça la transparence. Je pense que cette question, elle est d'ordre patriotique. Parce que si aujourd'hui le Congo a adhéré à cette initiative très importante de l'ITI, je pense que c'est quand même dans l'intérêt de tout le peuple, de toute la nation, que nous puissions voir clair dans l'exploitation de nos ressources minières. C'est très important. Aujourd'hui, nous savons que l'exploitation des ressources naturelles de notre pays se passe dans un flou total, que ce soit du côté du secteur minier, du secteur pétrolier, du secteur forestier et autres, il n'y a pas de transparence. Les exploitants communiquent au gouvernement les chiffres qu'ils veulent communiquer, que ce soit les pétroliers, que ce soit les miniers, alors que nous sommes face à une bifurcation, face à une situation, un dilemme terrible dans notre pays. Parce que vous savez, nous sommes à l'époque où le gouvernement s'en félicite d'ailleurs, à l'époque de la quête pour la croissance, une quête effrénée pour la croissance. Or, la croissance, c'est quelque part un couteau à double tranchant. D'une part, nous disons, nous sommes en droit de conquérir la croissance de notre économie, dont le secteur minier constitue un moteur par excellence, parce que cette croissance va nous permettre de rattraper notre retard par rapport à ceux qui sont déjà partis. Donc la convergence économique, c'est une quête légitime. D'autre part, nous savons que de plus en plus, des voix s'élèvent contre la quête de la croissance parce qu'elle consiste en une spoliation des ressources de la nature, en un épuisement de la nature, en une destruction systématique de notre environnement, de notre cadre de vie, de notre condition d'existence. Et le Congo est face à ce choix difficile. Mais qu'au minimum, quand même, que nous puissions tirer le bénéfice de ce qui existe, de ce qu'on fait effectivement, de ce qui se passe effectivement, avant que le couperet international devienne nous arrêter dans cette démarche pour la croissance. Que ce qui est exploité, qui est sorti de notre sol, de notre sous-sol, profite quand même tant soit peu au développement de notre nation, c'est quand même légitime, je pense. Et ça ne peut nous profiter que dans la mesure où il y a cette transparence que la société civile exige et réclame.
Oui, Michel Somoué, comment vous expliquez le fait que la société civile du Katanga dénonce après qu'elle ait adopté ses rapports? C'est vrai que M. Mouteba, lui, ne reconnaît pas avoir adopté ses rapports, mais le professeur Mac Ndouba, de l'ITIE, affirme que la société civile a aussi adopté ce rapport.
J'étais tenté de dire, avant d'intervenir ici, à la société civile qu'on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Mais je me dis aussi qu'il n'est jamais trop tard de bien faire ce qui doit être fait. Je ne sais pas, parce qu'à entendre le professeur, qui est le coordonnateur de l'ITIE, à l'entendre parler vers la fin de son exposé tout à l'heure, il a dit que pas plus tard que hier, on a encore adopté le rapport. Hier.
Non, je parlais de les améliorations que la société civile avait exigées.
On a adopté le rapport amélioré hier. Oui. Ça veut dire qu'il est encore possible d'améliorer davantage. Donc, moi, je ne vois pas en cela quelque chose qui puisse blesser l'ITIE, qui puisse blesser...
Non, on n'est pas blessé, Michel.
Ben, professeur, moi, je sens dans votre...
Non, pas du tout. Je voulais qu'on refuse. Oui. Il faut qu'on parle sur...
On a compris. Vous avez dit qu'il y a amalgame.
Oui, oui.
Voilà, vous voulez... En fait, l'objectif était
rapport,
de faire une mise au point.
Oui, oui.
Vous l'avez fait.
Oui, je crois j'ai dit en intervenant que, en tout cas, mise à part la question conceptuelle, des différences, des nuances qu'il faut faire entre les audits, les rapports, etc., mis à part ce point de vue qui est scientifiquement tout à fait valable. Mais le fond de la question demeure. L'objectif que nous exigeons, c'est la transparence. La transparence parce que nous en avons besoin, nous tous. Le professeur Makhnoumba a besoin de cette transparence, lui aussi. Et parce que, pas seulement lui, pour lui-même et pour sa postérité. Nous avons besoin de cette transparence pour que les ressources naturelles de notre pays reviennent effectivement, contribuent efficacement au développement de notre nation. C'est très important. Et donc, je pense que de ce point de vue, la société civile fait un bon combat qu'il faut saluer. Je pense que si M. Mouteba, qui n'avait pas été dans la salle au moment où on avait, entre guillemets, adopté le premier rapport, ITIE, le rapport 2011, en présence des membres du gouvernement, et autres, comme l'a dit le professeur Kondumba, si lui peut, en relisant les choses, remettre et mettre son point de vue, quoi de plus normal? La Constitution nous donne le droit. Il faut toujours dénoncer le mal, mieux vaut tard que jamais. À mon humble avis, je pense que nous devons... Le débat aurait dû consister dans le choix entre est-ce que ce qu'il dit est fondé ou pas. Est-ce qu'il y a pièce justificative qui appuie le rapport ou pas? S'il n'y a pas de pièce justificative, il n'y a pas de transparence.
À cette question-là, le professeur Makhnoumba n'a pas voulu répondre. Et nous avons des données qui ont Mbela de Kamina au Katanga qui dit la société civile du Katanga a raison car la population ne trouve pas son compte. Soyez à Kolwezi pour voir comment des centaines de tracts sortent avec des minéraux, mais la population est trop pauvre. C'est un pillage de nos minéraux, Monsieur Somoué.
Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Je pense qu'aujourd'hui, tout citoyen congolais responsable a ses espérances assises sur l'exploitation minière parce que, dit-on, c'est le secteur qui tire notre croissance économique. C'est le secteur qui puisse nous permettre d'améliorer nos conditions d'existence. Donc on ne peut pas être distrait face à ce qui se passe. Donc il faudrait que l'exploitation minière profite nécessairement au Congo. Et je suis passé moi-même par le Katanga. Je vois la façon dont la filière minière a attiré le capital étranger, mais c'est impressionnant et ça fait même peur à la limite.
Merci M. Jean-Pierre Mouteba. Le gouvernement n'a jamais exigé un audit. Vous avez fait des amalgames selon professeur Makhnoumba.
Je remercie le professeur Makhnoumba. Si vous prenez BDO, j'ai le document avec moi parce qu'on m'a demandé d'avoir le document, je l'ai. La synthèse dit la société a été coopérative et les travaux se sont déroulés de manière satisfaisante. Toutefois, contrairement à la législation congolaise, les documents comptables de la compagnie ne se trouvent ni à son siège, ni sur les sites, pour l'essentiel au siège de la maison mère. Cette absence des documents sur les sites a rendu difficile l'exécution de la mission, notamment au niveau du rapprochement physique, fichier comptable, justificatif. Ça, c'est pas le rapport de la société civile. C'est le gouvernement qui a demandé un audit. Je ne sais pas s'il peut l'appeler n'importe comment, mais c'est dit mission de certification des immobilisés. C'est-à-dire, c'est l'investissement au départ. Alors, à partir du moment qu'il n'y a pas de pièces comptables sur les lieux, je ne suis pas économiste, je suis psychologue de grâce. Mais j'ai étudié un peu, je comprends qu'il y a des normes internationales. Et les normes internationales, en matière d'audit, la première des choses, c'est que il faut avoir les pièces comptables sur le lieu de l'audit. Je crois que c'est simple. S'il vous plaît, je continue pour dire. Dans les principes de l'ITIE, le gouvernement doit s'assurer que les publications de l'entreprise sont basées sur des comptes audités, c'est-à-dire sur des comptes dont l'audit qui se fait selon les normes international, c'est-à-dire que les pièces comptables, à la rigueur. Je ne suis pas là pour... Je suis un patriote, parce que les gens disent non, ils n'aiment pas le pays. Aimer le pays, je crois, c'est faire comme ce que dit
Monsieur
le chef.
Nous allons prendre une réaction pour vous. C'est Mouindo Luc Kambere de Benio Nord-Kivu qui dit, c'est bien de réclamer la transparence, mais pourquoi la société civile se focalise seulement à la gestion du cuivre et du cobalt? Est-ce que ce n'est pas parce qu'elle ne se retrouve pas dans les contrats qui avaient été signés entre les différentes parties?
Voilà. Alors, je veux répondre à l'ami, mais c'est pour dire tout simplement que pour nous, on a dit, nous avons produit 980 000 tonnes cuivre cette année, l'année passée, 620 l'année précédente, et ainsi de suite. L'année dernière, à la conférence minière, le chef de l'État, il a dit lui-même que dans les secteurs des mines, il y a la fraude, il y a la corruption, il y a l'évasion fiscale. Donc, nous avons, nous, l'obligation de travailler selon le sens de cette interpellation du chef de l'État. Et je crois que si la société civile essaie d'aider les pouvoirs à voir là où ils ne voient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pièces comptables. Et nous avons été jusqu'à conclure que si deux grandes entreprises de cette taille n'ont pas de pièces, donc toutes les autres qui restent, il n'y a pas de pièces au Congo. Soyons sérieux, faisons des choses sérieusement. J'ai le dernier rapport du Sénat. Le Sénat a dit, si nous ne savons pas gérer nos ressources en responsable, arrêtons d'exploiter les ressources, laissons à nos enfants et nos petits-enfants qui seront plus responsables que nous. Donc ici, je crois qu'en tant que patriote, disons-nous les choses en face.
Nous allons écouter cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu pour vous, une fois de plus, Monsieur Jean-Pierre Mouteba.
Robert Bahame de Bukavu au sud Kivu. Je me demande comment la société civile du Katanga, qui avait pourtant été bel et bien associée à l'adoption du rapport ITIE 2011, fait curieusement dénoncer aujourd'hui le manque de transparence de celui-ci. N'est-ce pas là vouloir soutenir une chose et son contraire à la fois? Concrètement, que veut la société civile du Katanga quant à ce?
Oui, vous y avez répondu, mais le prof Magnumba
n'était
pas d'accord avec vous.
Je crois que la société civile du Katanga, c'est pas Jean-Pierre Mouteba. Et si, les amis, je crois que vous ne comprenez pas l'ITIE. L'ITIE, les gens peuvent adopter, mais les autres peuvent contester. C'est ça que l'ITIE dit. Vous pouvez être dans la salle, vous discutez, vous êtes membre de la société civile, vous êtes dans le comité, vous prenez des positions dans la salle, mais quand ceux qui ne sont pas dans la salle, ils ont aussi droit de relire le rapport et de faire des commentaires et de faire des débats comme celui que nous faisons. Merci. Sur le fond et non pas sur la forme et des émotions. Ici, nous parlons des normes internationales. Est-ce que quand il n'y a pas pièce comptable, il y a respect des normes internationales? Sinon, nous disons non. Et c'est comme ça que nous disons que pour les secteurs pétrole, les secteurs coltan, Nord Kivu, Sud Kivu, il y a ces secteurs-là, il y a peut-être de la transparence par la société civile. Nous, la société civile du Katanga, que je représente, parce que si je suis président, je dis bien, nous constatons que dans les secteurs mines, filières, cuivre, cobalt, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment
de
transparence.
Merci, professeur Jérémy Makdoumba. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui vient de Bukavu au sud Kivu.
Grâce Bagula de Bukavu au sud Kivu, la société civile du Katanga a totalement raison du fait que la pauvreté de la population reste inchangée en dépit du pléthore des entreprises minières extractives dans la province. Ce qui justifierait le rejet de ces rapports car le gouvernement ne communique pas suffisamment avec la population sur les revenus tirés du cuivre et du cobalt.
Oui, professeur.
Je vous remercie pour cette intervention, mais la première chose que je voudrais dire ici, il faudrait vous souvenir que le processus ITIE est basé sur des règles qui ont une périodicité et il y a aussi la fiabilité des éléments que nous devons produire. Je n'ai pas encore entendu, lorsque on rejette le rapport ITIE, s'il n'a pas répondu aux exigences de l'ITIE qui concernaient la production des données, qu'il ne s'agissait tout simplement de... Donc collecter tous les paiements que les entreprises minières et pétrolières avaient effectués à l'État en 2011 et ce que l'État avait reçu de ces entreprises en 2011. Donc il ne faut pas confondre la situation sociale avec les règles de l'ITIE. C'est pourquoi j'ai dit il ne faut pas faire de l'amalgame. Nous avons publié un rapport qui contient tout ce que l'ITIE international nous avait demandé en 2011. Même si le rapport est sur table en 2014. Maintenant, ce que nous voudrions dire, c'est que la pauvreté, la contribution de l'éradication de la pauvreté par les rapports ITIE, ce n'est pas aujourd'hui de mise. Nous, à l'ITIE, nous apportons l'information pour voir la faiblesse des revenus du secteur où la force de ces revenus, il vous appartient, vous, la société civile, d'utiliser ces rapports pour pouvoir réclamer auprès du gouvernement, auprès des parlementaires qui ont été élus, qu'est-ce qu'on a fait et pourquoi est-ce que c'est faible. Il n'appartient pas à l'ITE de dire, maintenant nous vous avons donné, voici les raisons pour lesquelles il y a la pauvreté. Je voudrais dire ça,
Un des partenaires de l'ITE, qui est la société civile, apporte des éléments de formation
sur lesquels
il y a opacité
nous dans n'avons, le secteur.
L'ITE ne tient pas compte de ces...
Non, nous tenons compte de tout et les débats.
Il va valider les rapports en dépit du fait que...
Guy, vous avez entendu Jean-Pierre vous dire ici que le débat est vraiment le centre, au centre des rapports ITE. Nous disons, si la société civile fait des constats, que ça se fasse dans la règle. Et ça, je voudrais rappeler aussi à Michel pour dire, lorsque on ne dit pas que la société civile ne doit pas faire des réclamations. Ici, aujourd'hui, nous parlons du rapport ITE-RDC portant sur l'exercice 2011. Et on nous avait reproché que nous n'avions pas très bien défini la matérialité, que nous n'avions pas mis sur la table toutes les entreprises en 2011 et aussi nous n'avions pas fait auditer tous les comptes. En ce qui concerne la situation qui est au centre aujourd'hui, pour vous le préciser, en ce qui concerne l'audit des comptes, nous ne demandons pas d'aller auditer les comptes. Ce qui est demandé à l'ITE, c'est que chaque entreprise doit présenter les preuves que ces comptes ont été audités. Et ces preuves ne sont pas présentées à la coordination ou au groupe multipartite. C'est présenté à l'administrateur indépendant qui réconcilie les comptes.
Merci.
Donc il faut faire une différence entre le processus ITE et la vision de la pauvreté sociale de la société civile.
Merci, professeur. Que faut-il faire pour promouvoir la transparence dans la gestion des entreprises extractives en RDC? Michel Saumon, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Mbujimayi au Kassai oriental.
Galvani Placide Turc en Mbujimayi au Kassai oriental. La déclaration de la société civile est justifiée car le manque de transparence et la fraude sont des mécanismes utilisés par plusieurs filières, non seulement celle du cuivre et du cobalt, et c'est sous la bénédiction de certaines autorités. Cependant, une suspension dans le processus ITE ne suffit pas à elle seule pour faciliter la transparence, mais aussi la lutte contre la corruption dans ce domaine, lutter contre l'impunité à tous les niveaux car le mal est profond dans ce secteur et touche tout le monde.
Oui, monsieur Michel Sommoué.
Oui, je crois que l'auditeur fait une analyse tout à fait objective, parce que ce qui est écœurant, même si le professeur Marc Doumba dit ici qu'il ne faut pas confondre la situation sociale avec le respect des règles de l'ITE. L'ITE fonctionne suivant des règles précises que lui a voulu respecter. Il n'appartient pas à l'ITRDC de s'occuper des questions sociales, mais il appartient, dit-il, ce qui est important, à la société civile de s'approprier le rapport ITE pour faire son plaidoyer en faveur de la société, ce qui est fondée. Mais je crois que c'est exactement ce que M. Moutem a fait. Regardez par rapport à l'intervention de l'auditeur tout à l'heure. Mais je crois que M. Moutem, le professeur l'a dit tout à l'heure. Je vais insister sur cette question. Il y a la période de Deuxième République, jusqu'en 1989, avant l'éboulement d'Amin de Kamoto. La Gécamines était le principal poumon de l'économie nationale et le principal bailleur du budget de l'État congolais. Pour plus de 50%, près de 100% dans le budget de l'État, ça venait de la Gécamines. Elle seule, avec seulement 480 000 tonnes au maximum. Aujourd'hui, avec la libéralisation que nous connaissons dans le secteur minier, dans le secteur de Katanga, la production a plus que doublé par rapport à la situation de la Gécamines d'antan. Or, avec la situation de la Gécamines, à cette époque-là, l'État congolais était encore capable de prendre en charge l'enseignement, de prendre en charge le soin de santé. On sentait encore une présence de l'État dans la vie sociale, dans le secteur social. L'éducation, la santé, il y avait encore. C'était pas parfait, mais on le sentait. Mais aujourd'hui...
À l'époque, le pays comptait combien d'habitants?
Mais on peut parler de l'accroissement de démographique comme on parle aujourd'hui de l'accroissement de la production du PIB. J'ai bien de dire que nous avons plus que doublé au niveau seulement de la production minière. On a plus que doublé. Si nous nous en tenons aux statistiques officielles, qui ne sont pas du reste vrais. Excusez-moi d'avoir des préjugés, mais je sais que, par tradition, le président l'a dénoncé, la fraude et la corruption sont les maîtres mots dans le secteur d'exploitation minière, ou d'exploitation de ressources naturelles, c'est connu. Donc ça veut dire que même les chiffres qui sont affichés ne sont pas forcément vrais, parce qu'ils cachent déjà une part importante de la fraude, de la corruption, et qui est très importante. Mais aujourd'hui, je dis, la pauvreté s'est accentuée, l'État est devenu incapable de supporter le système éducatif, de supporter le système de santé, etc. Alors que la production minière a presque doublé.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir la transparence dans la gestion?
Il faut renforcer la transparence et c'est là la pertinence et l'opportunité de l'existence de l'ITIE Congo.
D'où la présence de l'ITIE.
Exactement. Et c'est, ça que et c'est pour ça que je dis que le coordonnateur de l'ITIE qui est à mes côtés, pour ce moment, devrait être fier et heureux de l'intervention de M. Jean-Pierre Moutemba parce que c'est en sa faveur. Parce que je crois qu'au-delà de l'impression que cela donne, au-delà de la polémique sur les concepts, sur les délimitations des attributions de l'ITIE et son désintéressement par rapport à la question sociale, moi je crois qu'il devrait s'approprier cette intervention de Jean-Pierre pour renforcer sa mission et son rôle vis-à-vis des entreprises minières qui sont pour la plupart des spoliateurs de nos ressources naturelles. Merci. Je parle du professeur Moutemba en tant que fils de ce pays.
Merci Jean-Pierre Moutemba. Que faut-il pour promouvoir la transparence dans la gestion des entreprises extractives en RDC? Ça sera aussi votre conclusion.
Merci beaucoup. En fait, pour la société civile de la province du Katanga, nous devons d'abord arriver à connaître l'investissement, c'est-à-dire la hauteur de tous les investissements dans les secteurs miniers, cuivre, cobalt. Je ne parle peut-être que de ça, peut-être on peut l'étendre à autre. C'est-à-dire qu'on doit auditer. Auditer, nous devons auditer avec notamment élargir à des experts de la société civile pour auditer tous les immobilisés, tous les investissements pour qu'on connaisse la hauteur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous demandons qu'on publie le rapport BDO. Troisième chose, nous demandons que la GECAMINE publie les rapports d'audit de tous les partenariats qui avaient été faits, si ces audits sont arrivés à terme. Nous demandons qu'on publie l'arrêté interministériel sur la nomenclature des produits miniers à l'exportation. Ça fait 3 ans qu'on a fait une réunion ici sur ça. Aujourd'hui, une entreprise minière exporte des concentrés, mais elle dit qu'elle exporte 60% d'humidité, c'est-à-dire qu'on met de l'eau dans des grands bacs, et puis on exporte, et puis on paye pour les 40%. Donc il y a des problèmes, et ces problèmes, c'est des problèmes techniques. Nous exigeons qu'avant que nous puissions passer à cette validation-là, que nous ayons une feuille de route précise avec le gouvernement, avec un échéancier, et que dans le temps, nous puissions rapidement réaliser ces choses-là avant que nous puissions penser, nous, à ce qui nous concerne, que le secteur cuivre-cobalt est assez transparent. Or, maintenant, merci. C'est l'opacité totale et je crois qu'il faut être sérieux.
Merci,
entre
professeur
nous.
Marc Jérémy Doumba. Que faut-il pour promouvoir la transparence dans la gestion des entreprises extractives en RDC? Ça sera aussi votre conclusion.
Nous demandons à ce que les parties prenantes, notamment la société civile, les entreprises et le gouvernement, tout en respectant le processus, donc la mise en œuvre du processus, il faudrait que les débats autour des rapports que nous avons publiés continuent et que nous puissions être en mesure de satisfaire aux exigences de l'ITIE avec la participation de tous. Alors je vais conclure par dire, si aujourd'hui on dit on ne peut pas suspendre le processus et donc de validation, mais on doit aller jusqu'au bout parce que c'est international. Alors si quelqu'un dit nous ne voulons pas que le pays soit par exemple aujourd'hui conforme au principe de l'ITIE, nous serons exclus de l'ITIE. Or, si la République démocratique du Congo est exclue à l'ITIE d'ici le 30 juin, tout ce que nous disons autour ici, la société civile n'aura plus la capacité, la possibilité d'aller collecter les données, parce que c'est dans le dos de l'ITIE que ça se fait.
Merci de nous avoir de l'émission. Merci Michel Somoé. Votre conclusion?
Je soutiens le professeur Marc Doumba dans sa mission d'assurer la transparence dans le système d'exploitation minière de notre pays. L'exploitation des ressources naturelles, je crois que c'est très important, je le soutiens 100%, et je voudrais lui rappeler qu'il a un rôle capital, une responsabilité énorme par rapport à l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kinou qui était à la technique, Alain Rung, Samuel Kachak qui m'ont aidé à préparer cette émission sous la supervision des PL équipés la Mondo, devant ce micro, Guy Maté. Merci et bonne suite des programmes sur Radio Capitale.